Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une, le gouvernement congolais dément tout accord de coopération militaire récemment signé entre la Russie et la RDC, tel que relayé notamment par la presse. Cynthia Bachizi nous en parle à l'ouverture de ce journal. Journée internationale des droits de la femme. Les femmes atteintes d'albinisme disent éprouver beaucoup de difficultés pour contracter le mariage avec les non-albinos. Elles dénoncent la stigmatisation dont elles sont victimes. Nous serons à Lubumbashi avec Jean Gandou. Emmanuel Lampard, le représentant pays des Médecins sans frontières en RDC, est notre invité. Il fait un état des lieux de la situation des déplacés de guerre de Goma après sa visite dans la région et attire l'attention des autorités congolaises et des humanitaires. Grâce à Mzati Massanzi, je vous présente ce journal mis en onde par Alain Goy. Mesdames et messieurs, bonjour. Aucun accord de coopération militaire n'a été signé récemment entre la Russie et la RDC. Cette mise au point est du ministère de la Communication et des Médias congolais. C'est après que des articles de presse russes ont relayé l'approbation d'un tel projet d'accord entre le gouvernement congolais et le pays de Vladimir Poutine. Cynthia Bachizina-Bizana.
Moscou et Kinshasa ont-ils vraiment signé un accord de coopération militaire? Oui, selon l'agence de presse officielle russe qui, sur son site web, annonce que, conformément à l'article 11 de la loi fédérale sur les accords internationaux de la Russie, le gouvernement approuve le projet d'accord de coopération militaire avec la RDC. Une allégation vite démentie par la partie congolaise dans une déclaration rendue publique ce jeudi. Le ministère de la Communication et des médias soulignent que l'accord de coopération dont il s'agit est une démarche initiée par les deux parties, mais qui remonte à 1999. Depuis, ce processus a pris énormément de temps et c'est à peine donc 25 ans plus tard que le gouvernement russe donne son approbation pour examiner le contenu de ce texte. Et cela ouvre des voies à des discussions qui pourraient conduire à la signature éventuelle d'un tel accord, affirme le ministère de la Communication. Avant de conclure qu'il n'y a aucune discussion bilatérale entre les deux parties pour sa mise en œuvre effective. Et la RDC n'en envisage pas non plus dans les conditions actuelles, précise le communiqué.
Cynthia Bachizi Nabizana sur Radio Kapi. Entre-temps, sur le terrain au Nord Kivu, les affrontements opposent l'armée congolaise et les groupes armés locaux aux rebelles du M23 sur plusieurs fronts ce vendredi encore. C'est notamment dans le territoire de Rutshuru et celui de Masisi. Alors que les rebelles avancent vers de nouvelles localités au nord de Rutshuru, dans le territoire de Masisi, ce sont leurs positions qui font l'objet des attaques depuis déjà deux jours des groupes armés locaux et des militaires congolais. Bernard Denyangi.
Après une petite accalmie la nuit, les affrontements ont repris dans la matinée de ce vendredi entre les rebelles du M23 et les combattants des groupes armés locaux autour de la cité de Mweso, groupement Bachalimokoto, territoire de Masisi. Vers 9h locales, certaines sources de l'administration coutumière indiquaient que les rebelles sont parvenus à prendre le contrôle des localités de Kashuga et Missinga, environ 10 km de Mweso, plus au nord-ouest, et avanceraient vers Kalembe, sur les limites avec le territoire de Walikale. Ces affrontements interviennent alors qu'à l'issue de leurs attaques hier jeudi sur l'axe Mweso-Kichanga, les combattants locaux avaient déjà pris le contrôle des villages Bushanga et Mwongozi. Mais ils se seraient retirés quelques temps après à l'approche d'un renfort des rebelles. Dans le territoire de Rutshuru, des tirs sont entendus ce vendredi sur les axes d'une part Mabenga Katanda et d'autre part Nyanza Lesomikivu en chefferie de Buito. Certaines sources indiquent que les rebelles auraient l'intention d'accroître une pression sur la Rwindi et la zone de Vichumbi. Au lac Édouard, jusqu'à présent, aucun bilan n'est disponible, indiquent nos sources. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Attaquer les hôpitaux constitue un acte de crime de guerre et crime contre l'humanité. Déclaration de l'armée ce vendredi à Bounia, après l'attaque mercredi de l'hôpital général de Drodro dans la chefferie de Bahema Nord, dans le territoire de Djougou, par des éléments incontrôlés de la Codeco. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Une femme hospitalisée a été tuée sur son lit. Plusieurs biens ont été emportés et d'autres saccagés. Selon des sources locales, il s'agirait d'un acte de vengeance après le meurtre d'un jeune homme par des éléments de l'autodéfense Zaïre il y a 4 jours à Largou. D'après les FARDC, aucune communauté ne chassera l'autre de l'Ituri. Le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, est au micro de Martial Kizabiamongo.
Ce que nous déplorons dans tout ça est que ce sont les innocents qui sont en train d'être tués, provoqués par les groupes armés des deux communautés qui prétendent défendre leur communauté. Quant aux attaques d'un hôpital, il n'y a pas un autre mot que nous pouvons dire. C'est inacceptable, c'est inconcevable. Ça, c'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Nous avons toujours condamné, attaqué les hôpitaux, les écoles, les sites des déplacés et voir ces groupes armés Codeco s'attaquer à un hôpital où les patients sont inoffensifs, voire c'est inacceptable et nous condamnons devant la communauté internationale, devant notre justice et que ces faiseurs de troubles doivent être poursuivis, arrêtés, jugés et condamnés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
Toujours à Ituri, les femmes déplacées du site de Kigonze et à Bunia exigent le rétablissement total de la sécurité dans les territoires de Djougou pour qu'elles retournent dans leur village afin de mener une vie normale. Elles ont dit ce vendredi à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Ces vulnérables qui ont fui les attaques des groupes armés depuis décembre 2017 disent être fatiguées de la souffrance qu'elles endurent dans ces lieux de déplacement. Martial Kizabiamungu les a visitées. Voici son reportage.
Nous sommes au site de personnes déplacées de Kigonze, le plus grand à Bunia, avec plus de 3200 femmes contre 1350 hommes à ce jour. Espérance Goy, quarantaine révolue, mère de 5 enfants, visage très fondu, déclare avoir déjà fait 2 jours sans manger. Par manque d'assistance humanitaire, il y a plus de 2 ans, elle se réveille chaque matin pour aller faire des petits travaux dans des ménages pour trouver quoi donner à manger à ses enfants, dont la majorité présente des signes de la malnutrition. Comme d'autres femmes fatiguées de vivre dans la galère dans ces sites, elle manifeste la volonté de retourner dans son village à condition que la paix y soit restaurée. D'autres femmes déplacées sillonnent les rues de Bunia pour quémander ensemble avec leurs enfants juste pour leur survie. Depuis les sites des déplacés de Kigonze, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et au nord Kivu, des milliers de déplacés qui fuient l'intensification des combats entre les FARDC et les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru continuent d'affluer à Kanyabayonga dans les territoires de Lubero. Ils sont dépourvus de tout et affirment vivre un calvaire. Martial Papi Mukeba pour les détails.
Ces déplacés, en majorité des femmes et enfants, fuient Nyanzale, Kirima, Kikuku, Somikivu, Bwalanda et Kibingu. Nombreux d'entre eux parcourent entre 45 et 75 km à pied avant d'atteindre la commune rurale de Kanyabayonga dans les territoires de Lubero sans nourriture ni eau. Cette femme déplacée témoigne.
Depuis lundi, nous marchons à pied des Kibirizi en passant par le parc jusqu'à Kanyabayonga. Les enfants ont faim, nous souffrons et demandons de l'aide.
Sur place à Kanyabayonga, la situation des déplacés est déplorable, alerte les bourgmestres de cette commune rurale, Kasirika Fatiri Chrysostom.
Ils ont laissé tout derrière eux. Le besoin à médicaments a été exprimé. Nous vivons une période pluvieuse. Les déplacés vivent une situation très difficile.
La plupart de ces déplacés passent nuit à la Belle Étoile. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Par ailleurs, dans la province du Maïndombé, la situation économique et alimentaire ne cesse de se détériorer dans les territoires de Kwamout. Il s'observe ici depuis plusieurs mois la pénurie des produits agricoles. Cette crise alimentaire est l'une des conséquences des violences perpétrées par la milice Mobondo depuis près d'une année et 8 mois. La société civile locale qui alerte indique que les habitants de la cité de Kwamout, chef-lieu du territoire et des autres villages, n'ont toujours pas accès aux champs, craignant ces miliciens qui occupent les forêts, alors que l'agriculture est l'activité principale de ces coins, considéré comme grenier de Kinshasa, Bandundouville et des territoires voisins. Martin Souta, président de cette structure, lance un SOS pour une solution idoine. Il s'est confié à Irène Bomaluzolo.
La situation alimentaire fait grand défaut à Kwamoutou. Tout ce que Kwamoutou bénéficie vient maintenant d'ailleurs. Il faut pour en avoir, il faut aller à Bandundouville, il faut aller à Mouchi et ailleurs. Maïs non plus. La grande cause, c'est la guerre. Parce qu'aujourd'hui, une année, 10 mois que les gens ne fréquentent plus la forêt, ils craignent les Mobondo qui sont logés dans la forêt. C'est ce qui a causé cette situation dramatique. Quand nous voyons les enfants mourir avec la maladie, malnutrition, les déplacés qui sont à Kwamutu souffrent suite au manque d'aliments et de produits agricoles. Cette crise, après la guerre, pouvait continuer même pendant 5 ans. Vraiment, nous demandons aux autorités, tant nationales qu'internationales, de nous assister parce que nous sommes dans les besoins vraiment. Il n'y a pas vraiment la nourriture et les coûts pour en avoir, ça devient vraiment très très difficile. Nous demandons au gouvernement de prendre des solutions rapides, que les gens de Kwamutu se lancent dans ces activités habituelles comme les travaux champêtres pour que la vie devienne stable à Kwamutu.
Comme annoncé dans les titres, les femmes atteintes d'albinisme disent éprouver beaucoup de difficultés pour contracter le mariage avec les non-albinos. À l'occasion de la célébration de la journée des droits de la femme aujourd'hui, elles dénoncent la stigmatisation dont elles sont victimes et continuent de croire en leur avenir. Un reportage de Lubumbashi signé Jean Gando.
Sophie, la trentaine révolue, est une femme atteinte d'albinisme. Au-delà de la stigmatisation dont elle s'est dit être victime, elle regrette que cela touche aussi les domaines sentimentaux. Après avoir longtemps évolué avec celui qui a eu le courage de lui demander la main, un soir, quelle ne fut pas sa surprise. Ce jeune garçon sur qui elle comptait pour l'aider à faire face au rejet de la société viendra lui dire qu'il ne pouvait pas réaliser son rêve de l'avoir comme épouse, car pour ses parents, il est hors des questions qu'il prenne pour femme une albinos. Refusant de désobéir à ses parents, le garçon a rompu les relations. Rêve brisé, espoir déchiré. Une autre, Marie, qui a connu les mêmes déboires, indique que l'albinisme n'est pas dans les sentiments ni dans l'intellect, mais juste au niveau de la peau.
Étant qu'une femme atteinte d'albinisme, je suis aussi une personne à part entière. Je suis appelée à être aimée. Il fait un certain temps, j'ai été aimée par un homme. On a commencé à évoluer. Tout un certain temps, il s'est retiré de lui-même petit à petit. Deux fois, ce que j'avais constaté quand on évoluait avec lui, il ne voulait pas même présenté hein, auprès de ses amis, auprès même de sa famille, auprès de ses proches, non.
En cette journée consacrée aux droits des femmes, elle demande aux autres femmes atteintes d'albinisme d'être fortes et de continuer la lutte tout en gardant leur personnalité. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Et puis, au Maniema, les filles et mères victimes de grossesses non désirées qui sont encadrées à la maison de la femme ont bénéficié ce jeudi d'une séance de sensibilisation sur la planification familiale sous la facilitation des sages-femmes avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Ces filles mères ont été outillées sur différentes méthodes de planification familiale pour éviter ce qu'elles qualifient des erreurs du passé. Florence Kizalunga nous en parle.
L'importance de cette sensibilisation pour Madame Vero Kikukama, responsable de la maternité de l'hôpital provincial, est pour aider ses filles à donner naissance au nombre et au moment voulu.
Nous les avons appris à planifier leur naissance parce qu'elles sont beaucoup plus des filles mères. C'est-à-dire, elles ont voulu étudier, mais à un certain moment, elles ont eu des grossesses indésirables, des grossesses qui n'étaient pas planifiées. Maintenant, là, nous sommes venus pour leur montrer certaines méthodes pour qu'elles puissent planifier leur naissance.
Les bénéficiaires nous montrent ici quelques méthodes apprises. Kangela Julie, l'une d'elles.
En tout cas, nous remercions beaucoup plus l'UNFPA. Nous avions été victimes des grossesses non désirées. Aujourd'hui, on nous a appris comment utiliser les condoms, les pilules, les cycles colliers. Ça va nous permettre d'avoir les enfants au temps voulu.
La Maison de la Femme promet d'intensifier cette sensibilisation. Fatouma Dalle Geneviève est la directrice.
La Maison de la Femme encadre le fumeur. Mais nous avons constaté que par ignorance que ces filles-là ont eu des grossesses non désirées. C'est ici que nous avons invité les sages-femmes pour les filles ne puissent plus tomber dans les mêmes erreurs.
Kindo, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Revenons au Nord Kivu, où le processus de l'opérationnalisation de la brigade financière d'alerte et d'appui au service public des recettes est enclenché ce jeudi à Goma. Au moins 60 premiers brigadiers recrutés pour cette structure ont reçu leur brevet d'une formation de 9 jours. Ils ont été outillés sur les opérations de surveillance et filature dans le cadre des luttes contre la fraude fiscale. Selon le conseiller financier et chef de cette structure dénommée Brigade Financière SA, ces brigadiers formés sont des aviseurs des régies financières. François Wababoucho les dit à Bernard Denyangi.
En fait, la brigade financière, c'est un service d'alerte et d'appui au service public des recettes, notamment la DGRAD, la DGDA, la DGI, la DGRNK. Donc, elle est chargée juste d'alerter ces régies financières sur les cas suspects ou avérés des fraudes, de contrebandes, Et là, c'est la loi qui fixe qu'un service aviseur puisse alerter et donner l'information et référer à la régie qui doit poursuivre maintenant le récalcitrant. En fait, c'est un nouveau service qui est en train d'être implanté et ça commence d'abord à Goma, ça va s'étendre dans d'autres territoires, notamment à Beni et Butembo principalement. On a formé 62 candidats en douane et fiscalité. Il y en a qui vont commencer le service, ils sont 42, et le reste, ils sont des réservistes.
Actualité internationale.
Le jeudi 7 mars 2024, le Conseil constitutionnel sénégalais s'est aligné sur le 24 mars pour la tenue du premier tour de la présidentielle après avoir retenu une date différente de celle fixée par la présidence, indique-t-il dans un communiqué.
L'invité.
Des conditions de vie précaires, des déplacés de Goma en eau, hygiène, abri et nourriture et autres actions médicales et humanitaires, c'est le constat qu'a fait le représentant pays des Médecins Sans Frontières en RDC lors de sa récente visite à Mwenga, Lushagala et Goma. Emmanuel Lampard témoigne sur la présence des hommes armés près des camps de ces déplacés civils. Il appelle à l'intervention du gouvernement et des humanitaires. Emmanuel Lampard s'entretient avec Jeff Opela.
Bonjour Emmanuel Lampard.
Bonjour Jeff.
Vous revenez du Nord Kivu, vous avez parcouru la ville de Goma. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la présence armée dans les camps et autour des camps? Et quel danger cela représente pour la population des déplacés civils qui sont dans les camps?
Vous le savez, Médecins Sans Frontières, c'est non seulement l'action médico-humanitaire, c'est aussi le témoignage, c'est aussi la prise de parole, et notamment pour ceux qui n'ont peut-être pas de voix. Alors certes, les dernières semaines, ensemble avec le CICR, ensemble avec OCHA et d'autres, on s'est mobilisés pour demander que notamment les lignes de défense soient pas aux abords des camps, au sein des plus vulnérables, avec tout ce que ça amène avec en termes d'insécurité, même si c'est juste une perception. La guerre se joue désormais aux abords des camps. Mais à cela s'ajoute maintenant que vous avez autour des camps et des sites informels de Lushagala Chabindou, les camps de Wazalendo en uniformes divers, armés, vus, j'en témoigne. Ces camps sont à proximité. Et non seulement ces camps sont à proximité, aujourd'hui, il y a de plus en plus une présence volontaire dans les camps. Et donc nous voyons clairement une tendance, et ça c'est vraiment très récent, hein, sur les dernières 2-3 semaines, nous voyons davantage de harcèlement, violence, violence faite à la femme, atrocité. Quoi, vous êtes au courant, il y a eu une femme enceinte tuée par balle. Et ce n'est qu'un exemple, nos équipes témoignent davantage d'un climat d'insécurité.
C'est-à-dire, lorsqu'on s'y balade, on peut voir dans les camps les hommes armés, et on peut voir les lignes de défense autour des camps?
Tout à fait. Je crois les dernières semaines, aussi Médecins Sans Frontières s'est mobilisé parce que les bombardements, les lignes de défense aussi, les tirs plutôt offensifs, défensifs, se positionnaient aux abords des camps. Ça a un impact en termes de déplacés. Pour nos équipes, pour les patients qui sont en train de consulter, hospitalisés dans les structures, c'est assez énorme. Imaginez-vous une femme enceinte dans la maternité, avec cela, à quelques mètres.
Peut-on savoir dans quelles conditions le MSF travaille à cette situation qualifiée de catastrophique au niveau de Nord Kivu?
On a essayé de vous décrire la précarité des conditions de vie, que nous avons même qualifiées de survie, des déplacés, davantage plus grands en nombre. Nos équipes se démènent au mieux pour offrir notamment les soins, les besoins essentiels en termes de eau et hygiène, parfois font des distributions ponctuelles comme cette semaine vers Lushagala et Chabindou. Mais c'est clair que cette insécurité grandissante aux abords et dans le camp fait en sorte que les heures de présence, notamment de l'ensemble des équipes, est davantage contraignée. Et bien évidemment, l'impact des conditions, même si on essaye de se mobiliser au mieux, à la longue, ben ça vous déchire. Les choix que nos équipes doivent constamment faire, aussi pour s'adapter à ce contexte très évolutif, très dynamique, ça pèse énormément sur les physiques et sur les états mentaux. Ça, c'est nos équipes. Imaginons-nous alors les civils vulnérables déplacés, qui parfois se sont déplacés pour la deuxième, troisième fois.
Après ce que vous avez vécu, quel est l'appel des MSF?
Je crois pour l'ensemble des acteurs, chacun dans leur rôle et avec leur responsabilité, les deux messages clés, c'est il faut être présent et il faut mobiliser cette réponse. Oui, en priorisant. Oui, en faisant des choix. Oui, on peut en appeler à plus de moyens. Mais je crois clairement aujourd'hui, il faut avoir comme objectif que aussi les nouvelles vagues puissent bénéficier des standards minimums en termes de réponse lors d'un déplacement interne. Deux, c'est un clair appel, un langage clair et ferme pour la protection des civils plus vulnérables déplacés.
Monsieur Emmanuel Lampard, merci.
Notre invité répond aux questions de Jeff Opila. Ce journal touche à sa fin. Il a été coordonné et supervisé par Jacques-Yves Molima. Alain Goy a assuré la mise en onde. Vous avez la possibilité de réécouter ce journal sur www.radiocapi.net. Merci.